C'est quand même dingue d'imaginer un chef d'État tellement terrifié par ses voisins qui décide de vider toutes les banques de son propre pays pour payer la pire armée du monde.
Ouais, juste pour qu'elle vienne le sauver, quoi. C'est littéralement le suicide géopolitique parfait.
Exactement. D'habitude, quand on parle d'archives historiques de l'Antiquité, on s'imagine des trucs lointains, un peu poussiéreux, très cliniques.
C'est pas du tout le cas ici.
Ah non, la poussière, elle retombe super vite. Aujourd'hui, on fait une plongée dans les dossiers géopolitiques du Proche-Orient ancien et on se retrouve direct dans une salle de crise suffocante.
Avec des dirigeants en pleine panique qui prennent des décisions, monumentales, juste basées sur une terreur viscérale.
Et pour guider notre exploration d'aujourd'hui, on se base sur la transcription de la session 5 des cours du docteur John Oswalt.
Tout à fait, un expert qui décortique les chapitres 7 et 8 du livre d'Ésaïe.
Et ce qui est vraiment cool avec cette source, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aborder le texte sous un angle religieux. L'idée de notre analyse aujourd'hui, c'est d'extraire la moelle psychologique de tout ça. Le docteur Oswalt, il utilise ce récit comme un miroir impitoyable de la psychologie humaine.
Ça expose vraiment les mécanismes de la peur, ce besoin de contrôle compulsif et les conséquences désastreuses qui arrivent ensuite. On va rester très factuel là-dessus.
Ok, alors décortiquons ça. Pour bien capter la psychologie, il faut planter le décor. On est vers 735 avant notre ère.
C'est ça. Le royaume de Juda, avec le roi Achaz à sa tête, est vraiment au bord du gouffre. La tension est palpable.
Il y a une menace locale d'un côté et une menace existentielle de l'autre.
Cette menace géante, c'est l'Assyrie. Faut pas juste voir la Syrie comme une armée, hein. C'est une vraie machine de guerre conçue pour broyer des civilisations entières.
Les fameux maîtres de la terreur psychologique.
Exactement. Des écorchements, des empalements, des déportations massives. Ils voulaient pas juste gagner, ils effaçaient carrément l'identité de leurs ennemis.
C'est glaçant.
Du coup, face à ce rouleau compresseur, deux petites nations se disent qu'il faut agir vite. Israël, souvent appelé Éphraïm à l'époque, et la Syrie.
Ils font une coalition, c'est ça, hein?
Ouais, ils s'allient pour bloquer la Syrie. Mais pour que ça tienne la route, ils exigent que le royaume de Juda, un peu plus au sud, les rejoigne.
Sauf que le roi Achaz, il refuse net.
Catégoriquement. Et ça déclenche une réaction en chaîne immédiate. Ses voisins ne peuvent pas se permettre d'avoir une faille dans leur ligne de défense.
C'est logique de leur point de vue, donc ils changent de cible.
Voilà, ils marchent sur Jérusalem pour renverser Achaz et mettre un roi marionnette à la place. Le texte donne même son nom. Un certain Tabeel.
Et le docteur Oswald souligne l'ironie du nom, non?
Ah oui, c'est très mordant. Tabeel, ça veut dire la bonté de Dieu. Donc la situation pour Akaz est juste cauchemardesque.
S'il rejoint la coalition, il se prend la Syrie de plein fouet un jour ou l'autre, et s'il refuse, les armées à ses frontières vont l'écraser dans quelques semaines.
L'impasse totale. Et c'est là qu'Akaz prend une décision complètement sidérante.
Au lieu de négocier ou de faire une vraie stratégie, la panique prend le dessus. Il vide les coffres du palais, il prend l'or du temple et il envoie tout au roi d'Assyrie, Tiglath-Pilhassar.
Il paye littéralement le pire terroriste de la région pour attaquer la coalition qu'il menace.
C'est comme si trois souris se battaient dans une cuisine et il y en a une qui, se sentant coincée, décide d'engager le chat pour régler le problème.
C'est exactement ça. Et le truc, c'est que le chat, il va faire aucune différence entre la souris qui a payé et les deux autres.
Bah non, une fois qu'il aura mangé les ennemis d'Achaz, il va forcément se tourner vers lui.
C'est l'exemple parfait d'une stratégie dictée par l'angoisse immédiate, qui est complètement aveugle aux conséquences à long terme.
Mais il y a un truc sur lequel je bloque là. Si moi je suis Tiglath-Phalazar, le maître de cet empire immense, pourquoi je m'embêterais à respecter un contrat avec un petit roi paniqué? Je prends l'or et je l'écrase lui aussi.
C'est exactement ce qui était prévu. La Syrie comptait bien annexer tout le monde, Juda y compris. Oswald le dit avec un certain humour noir, on imagine bien l'Assyrien dire à son trésorier « encaissez cet or tout de suite, avant que cet idiot change d'avis. »
C'est fou. Achaz finance la propre armée qui va asservir ses enfants.
Il croit s'acheter de la sécurité, mais il se peint une cible géante dans le dos. C'est ça la nature pernicieuse de la peur, tu vois. Ça nous convainc que céder notre souveraineté à notre pire cauchemar, c'est une bonne idée. Juste parce que ça règle le problème des 24 heures qui viennent.
Et du coup, en payant, il lance un compte à rebours mortel. Ce qui nous amène à l'intervention du prophète Ésaïe. La confrontation entre les deux est fascinante. Et le lieu est hyper important, n'est-ce pas?
Oh que oui! Ésaïe doit rencontrer Achaz à, je cite, « l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur ». C'est pas une promenade de santé.
Parce que l'eau, c'est le point faible d'une ville fortifiée en cas de siège.
Exact. Achaz inspecte l'eau parce qu'il sait que la coalition arrive. Il essaie de s'en sortir par ses propres moyens techniques. Mais l'architecture narrative ici est vertigineuse.
Comment ça ?
34 ans plus tard, l'armée assyrienne, le fameux Shah, sera aux portes de Jérusalem. Et le général assyrien se tiendra exactement à ce même point géographique, à cet aqueduc.
Ah ouais, au même endroit pour exiger la reddition ?
Exactement. Et c'est le fils d'Achaz, Ézéchias, qui va subir le même test psychologique. Sauf que lui, il refusera de céder à la panique.
C'est lourd de sens comme décor, donc à cet aqueduc, Ésaïe fait une offre hallucinante à Achaz. Demande un signe, n'importe lequel, un truc immense dans le ciel ou sur terre, pour prouver qu'il n'a pas besoin de s'allier à la Syrie.
Et là, la réponse d'Achaz, c'est vraiment un chef-d'œuvre de manipulation.
Fausse humilité totale. Il dit « Non, non, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas Dieu. »
Voilà, l'excuse parfaite. Il utilise un vocabulaire super moral pour cacher sa lâcheté. Il cite même la Torah pour se justifier.
Mais Ésaïe n'est pas dupe. Le docteur Oswald décortique bien ça. Pourquoi il refuse vraiment ce signe ?
Ben, parce que le chèque est déjà parti. Les messagers avec l'heure sont en route. Dans sa tête, le plan est scellé.
Il a trop peur qu'un miracle le force à admettre qu'il a eu tort.
C'est ça. S'il voit une faille sismique s'ouvrir, il devra annuler sa diplomatie et faire confiance à l'invisible plutôt qu'à une armée bien tangible. Il préfère 100 fois un désastre certain plutôt que le risque de la foi ou de l'inconnu.
C'est tellement révélateur de la nature humaine, se cacher derrière de grands principes idéologiques ou professionnels juste pour éviter de prendre un vrai risque.
Complètement.
D'ailleurs, la source partage une anecdote du docteur Oswald sur ses étudiants en théologie qui illustre parfaitement ça.
Ah oui, celle avec les étudiants précaires.
Ouais, il explique que les étudiants qui arrivent sans le sou, sans logement fixe, avec une famille à nourrir, ils développent une résilience incroyable. Ils vivent sur le fil du rasoir.
Ils n'ont pas le choix et sont obligés d'accepter l'inconnu.
C'est ça. Alors que ceux qui ont des gros comptes bancaires et des plans B ultra solides, ben, ils paniquent au moindre imprévu. Le confort matériel nous atrophie, en fait.
Achaz, c'est l'archétype de l'homme qui se noie sous ses propres plans de secours. Il a tout structuré pour ne jamais dépendre de ce qu'il ne peut pas contrôler.
Sauf que son refus ne clôte pas le débat. Ésaïe lui dit que, puisqu'il ne veut pas de signe, on va lui en imposer un. Et c'est là qu'on pivote vers des signes sous forme d'enfants.
Oui, il y a trois enfants spécifiques mentionnés qui servent de compte à rebours, en fait.
D'abord, le propre fils d'Ésaïe, présent à l'aqueduc. Son nom, c'est Sheher Jashub, je crois.
Qui veut dire « un reste reviendra ». Et ce garçon incarne toute la tension du texte. Dire qu'un reste survivra, c'est un message d'espoir pour le futur lointain.
Mais pour le court terme, c'est glaçant.
Absolument. Si seulement un reste revient, ça veut dire que la majorité de la population va se faire décimer. C'est la conséquence directe des actes d'Achaz.
Et ensuite, on a le deuxième enfant, le plus célèbre, Emmanuel. Dieu avec nous. La source explique qu'il y a un énorme débat linguistique sur un mot précis, n'est-ce pas ?
Ouais, sur le mot hébreu « alma », qui décrit la mère. En fait, l'hébreu a un mot strict pour dire vierge, physiologiquement, « betula », et un mot pour jeune fille, « nahara ».
Et « alma », ça veut dire quoi alors ?
Ça désigne une jeune femme en âge de se marier. Dans leur culture, ça impliquait généralement la virginité, mais c'est pas le centre sémantique du mot.
Mais attends, si le but c'était de prophétiser un miracle absolu, pourquoi ne pas juste dire « betula » ? Pourquoi laisser cette ambiguïté ?
Parce que l'ambiguïté est mécaniquement nécessaire pour que ça marche sur deux échelles de temps. Si Ésaïe avait utilisé un terme qui ne désigne qu'un truc impossible dans un futur très lointain, Achaz s'en ficherait.
Ah, il lui fallait un compte à rebours immédiat.
Exact. La prophétie utilise la croissance naturelle d'un enfant comme une horloge géopolitique.
J'adore cette métaphore. J'ai pensé à une analogie visuelle en lisant ça. C'est comme regarder une chaîne de montagnes de très loin.
Vas-y, explique.
Bah, à l'horizon, tu vois un sommet net. C'est le premier accomplissement. Mais tu te rends pas compte que juste derrière, il y a un deuxième sommet beaucoup plus massif qui se superpose parfaitement. Le premier sommet, c'est la crise immédiate d'Achaz.
Le territoire des rois qui terrifie Achaz sera abandonné.
Donc, pendant que le gamin grandit, la géopolitique va s'effondrer.
Et c'est ce qui s'est passé. La Syrie est écrasée en 732 et Samarie, la capitale d'Israël, tombe en 722. Le deuxième sommet, c'est l'accomplissement à très long terme, des siècles plus tard.
Et pour bien clouer le cercueil géopolitique de Juda, il y a un troisième enfant, avec un nom qui claque. Mar, Shalal, Shash, Baz.
Le butin se hâte, le pillage se précipite.
C'est pas super rassurant comme prénom pour un bégué.
Non, le message est clair, la Syrie arrive à toute vitesse.
Et ça nous amène à un énorme paradoxe que soulignait la source. Emmanuel, ça veut dire « Dieu est avec nous ». On perçoit tout ça comme un truc réconfortant.
Normalement, oui.
Mais pour Achas, c'est une menace terrifiante. J'ai un peu de mal à saisir comment une présence transcendante devient un danger de mort.
Tout simplement parce qu'Achas ne veut pas d'une présence, il veut le contrôle. Le docteur Oswald explique que l'Assyrie est décrite dans le texte comme un rasoir loué par Dieu.
Un rasoir engagé pour raser Judas ?
Ouais, la barbe, la tête, les pieds. C'est la pire humiliation publique possible à cette époque. La leçon de fond, c'est que tout ce en quoi on place notre confiance à la place de la vérité ou du transcendant, bah, ça finit toujours par se retourner contre nous.
Notre propre remède devient le poison. D'ailleurs, à propos de ce rasoir loué, il y a une erreur de traduction assez comique rapportée par Oswald, non ?
Ah oui, dans la traduction grecque antique, la Septante, les traducteurs ont confondu le mot hébreu pour louer, charar, avec sarar, qui veut dire s'enivrer.
Donc ils ont traduit par un rasoir ivre.
C'est ça. Tu imagines l'image absurde d'un rasoir qui titube et qui rase tout au hasard.
Ça reste flippant, un rasoir géant ivre avec une armée de centaines de milliers d'hommes. Mais ça montre bien l'absurdité de la situation. Le besoin compulsif d'Achas de s'autosuffire l'a mené à sa propre destruction.
Et l'analyse va plus loin sur la condition humaine. Oswald suggère que la racine du mal depuis les débuts de l'humanité, c'est pas la méchanceté pure.
C'est quoi alors ?
C'est la peur, l'anxiété chronique. L'être humain est terrifié par l'inconnu, donc il se convainc qu'il doit subvenir à ses propres besoins par tous les moyens. Ça l'autorise à mentir, écraser les autres, s'allier avec le pire. La cruauté d'Achaz, elle vient pas d'un sadisme, mais d'une panique incontrôlable.
Le problème, c'est que la panique d'un dirigeant, ça ruisselle sur tout le monde. À la fin du chapitre 8, on voit la société entière se désintégrer. Ça résonne tellement avec aujourd'hui.
Le prophète reçoit l'ordre de ne pas céder à la paranoïa ambiante. Le texte dit, en gros, « N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration ».
C'est fou de lire ça. Quand une société perd son ancrage, la paranoïa s'installe partout.
Ouais, les gens voient des complots à chaque coin de rue pour essayer de rationaliser un monde chaotique qui leur échappe.
L'antidote proposé par le texte, c'est de faire de cette transcendance un sanctuaire. Si on respecte ça, on a une paix mentale. Sinon, ça devient un piège contre lequel on se fracasse.
Et le résultat de ce rejet est super sombre dans l'analyse. Terrorisés par l'avenir, les gens finissent par consulter des médiums, des nécromanciens.
Ils veulent arracher les certitudes aux morts.
Voilà. Et ça mène à quoi ? À la rage, à la faim et à des pestes ténèbres. Oswald fait un lien brillant avec le postmodernisme actuel et le retour du spiritisme chez les gens très éduqués. Ça montre une culture bloquée dans l'anxiété perpétuelle.
Le texte dit que c'est une société sans aube. L'expression donne des frissons.
C'est exactement ça.
Si on résume notre exploration, on voit que la peur pousse à engager nos propres destructeurs. Accepter l'incertitude, c'est la seule façon de construire ce fameux sanctuaire intérieur.
L'illusion du contrôle total, c'est vraiment le piège le plus dangereux pour l'intelligence humaine.
Et ça m'amène à une réflexion finale, un truc auquel j'ai pensé en lisant tout ça. On voit que ces gens se tournaient vers des nécromanciens pour prédire l'avenir par peur.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on fait quoi ? On est obsédé par le big data, l'intelligence artificielle, les algorithmes prédictifs pour anticiper chaque petite crise. Est-ce que cette technologie, c'est pas au fond notre version moderne de la nécromancie ?
Ah, c'est une excellente question.
À force de vouloir tout modéliser pour fuir l'incertitude, comme Achas, on risque de créer des systèmes qui seront nos propres rasoirs loués qui se retourneront contre nous.
Savoir à quel moment notre technologie de prédiction devient notre nouvelle idole, c'est clairement le défi majeur de notre époque.
Faut vraiment y penser la prochaine fois qu'on fait du doomscrolling sur notre téléphone pour se rassurer. C'est juste notre façon à nous de consulter les augures. En tout cas, notre plongée dans ces textes antiques s'arrête là pour aujourd'hui.
C'était une discussion fascinante.
On se retrouve très vite pour explorer ensemble de nouvelles sources. À bientôt!